Salut à tous. Backseat, c'est le talk show d'actualité politique sur Internet. Si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à rejoindre le club Backseat pour 15 euros par mois en cliquant sur le lien dans la description.
Bonsoir Sophie Prima, bonsoir. Merci d'avoir accepté.
Est-ce que j'ai le droit de répondre à Adèle?
Alors, j'allais vous poser la première question. Quand elle dit 9 porte-parole en 8 ans, vous le sentez comment?
Ouais,
vous...
Je peux lui répondre sur autre chose avant ou pas? J'ai le droit?
Ah, mais après, il faudra me répondre sur ma question parce que sinon, ça va mal se mettre.
Ça va mal commencer.
Allez-y,
ouais,
Sophie Prima, vous voulez répondre sur
quoi? Je voulais lui dire que dans les Yvelines, puisqu'elle caricature les Yvelines, il y a aussi une partie des Yvelines, dans le nord des Yvelines, dans la vallée de la Seine, dont je suis issue, dont je suis une politique. Qui est une partie du territoire ouvrière, qui est une partie du territoire dans lequel nous avons les Mureaux, Mantes-la-Jolie, Chanteloup-les-Vignes, que certains connaissent ici, et qui sont des super territoires, mais qui ne sont pas des territoires à mocassins avec...
Je me disais que c'était les mocassins que vous n'avez pas bien
pris. Les mocassins moyens. Les mocassins moyens, mais je les aime bien quand même. Voilà. Alors, okay. C'était quoi votre question?
C'est vous qui faites les questions, que je vous dise. Non. Ma question, c'était effectivement, porte-parole du gouvernement... C'est une espèce en voie de disparition. C'est pas facile, je veux dire, ça dure pas très longtemps en général.
Eh ben, écoutez, on va essayer de faire durer les choses, mais oui, c'est pas facile, surtout dans la configuration politique dans laquelle on est depuis quelques mois, qui est une configuration politique qui n'a, je le rappelle, depuis le début de la Ve République, jamais existé. Donc évidemment, personne n'est habitué, nous non plus. Évidemment les Français encore moins, et puis les chroniqueurs et les journalistes encore moins.
Effectivement, non, mais vous avez raison. Il y a un truc par contre qu'on connaît, c'est les cacophonies gouvernementales, c'est les couacs, les trucs comme ça. J'aime beaucoup l'expression de polyphonie, ça me rappelle la gauche plurielle où aucun ministre n'était d'accord avec personne, et du coup on disait non mais c'est normal, c'est du débat, c'est important. Vous êtes d'accord que ça fait tâche quand même, là, ces dernières semaines, les expressions divergentes de ministres sur des dossiers pas des moindres, celui des retraites, par exemple, le Premier ministre en personne qui confesse sur un plateau télévision que le retour à 62 ans n'est pas possible, son ministre de l'économie, Éric Lombard, qui le lendemain dit « si, on maintient le dialogue du conclave », c'est quand même compliqué, non? Qu'est-ce que la porte-parole que vous êtes dit dans ces cas-là?
Évidemment que c'est compliqué. C'est compliqué d'être dans un milieu politique et une situation politique dans lequel il y a une majorité qui est relative et qui est faite en plus avec des groupes politiques qui ne sont pas exactement assis au même endroit à l'Assemblée nationale. Donc ça, c'est compliqué. Et ça veut dire que le Premier ministre a fait une majorité, enfin a fait un gouvernement avec des gens qui venaient de chacun de ces groupes politiques qui donc parfois ont des avis qui sont un peu divergents. Et donc... en fait, on n'a pas d'autre solution pour l'instant. Les Français nous ont envoyé une Assemblée nationale qui ressemble à ça. Et donc, il faut faire avec cette Assemblée nationale et il faut faire avancer le pays. Alors parfois, effectivement, François Bayrou, moi, je l'ai découvert. Je découvre la façon dont il fonctionne. Pas tous les jours, c'est quelquefois surprenant.
C'est pas tous les jours facile.
Voilà, pas tous les jours facile. C'est pas tous les jours facile parce que moi je le connaissais pas avant, et puis qu'il a une façon aussi atypique lui-même de fonctionner, et donc ça demande aussi de ma part de bien comprendre et de bien
lancer une concertation entre les partenaires sociaux pour l'enterrer un mois plus tard.
Non, qu'une porte-parole
non,
particulier.
Alors,
c'est
là,
quand même.
François Bayrou, qu'est-ce qu'il fait pendant l'interview? Il donne un avis, là aussi, lui, un avis personnel. En disant, j'ai lu. Non, mais je vais
Allez-y, mais un avis personnel de Premier ministre, pardon.
Oui, mais voilà, c'est sa façon de faire. Et il lit le rapport de la Cour des comptes, il regarde des comptes, il regarde l'obligation de balayer les déficits à 2030. Et il se dit, revenir sur l'âge, c'est marqué dans le rapport de la Cour des comptes, ça coûte en gros 13 milliards par année en dessous. Bon, donc il dit, je ne sais pas comment c'est possible. Voilà ce qu'il dit en fait pendant son interview. Il dit une deuxième chose qui est très intéressante. Il dit, mais peut-être que le seul âge, l'âge unique de départ à la retraite, c'est peut-être pas une bonne idée. Donc ça, c'est peut-être un élément sur lequel les partenaires sociaux peuvent travailler. Bon, il dit ça, effectivement, vous avez raison, il est Premier ministre, donc peut-être qu'il aurait dû attendre pour avoir cette expression-là, que le conclave, ou je ne sais pas comment on l'appelle maintenant, soit terminé, parce que la règle du jeu, en réalité, n'a pas changé. Donc, il a juste dit, ça me paraît difficile.
Malek ?
J'ai peut-être un mot pour remplacer conclave, simulacre, peut-être que c'est...
Moche.
En réalité, moi, ma conviction profonde, c'est qu'en réalité, depuis le début... tout le monde savait qu'il n'y aurait pas de bouger, vu que c'est le nouveau terme hype, sur les retraites, et que ça a été le moyen, en fait, en réalité, de d'avoir une petite assurance vie, une petite survie. Et je trouve ça super intéressant quand vous parlez de François Bayrou en disant que vous-même, vous cherchez à comprendre. Si la porte-parole cherche à comprendre, alors imaginez-nous, purée.
Non, mais je cherche à comprendre parce que j'essaye de trouver... En fait, lui, ce qu'il cherche, c'est le chemin du commun. Ben, ce n'est pas facile, vous le dites vous-même. Vous vous moquez de nous, vous avez raison, c'est votre rôle. Mais nous, on cherche le passage, en fait, le passage législatif, le passage politique, pour essayer que cette Assemblée nationale puisse continuer à travailler, que le Sénat puisse continuer à travailler et que la France puisse continuer à un peu avancer. Parce que, vous savez, quand on arrive, et il y a encore 15 jours, ça fait un an que, par exemple, les agriculteurs, ils attendent la loi, le projet de loi d'orientation agricole. Ça fait un an et ils n'en peuvent plus. Et ils nous rendent tous responsables de ça et tous sur les bancs de l'hémicycle. Et il y a un moment, il faut le faire. Donc, il faut trouver du commun. Il y a des endroits où on n'est pas d'accord, il y a des endroits où on a des expressions différentes, et puis il y a des endroits où il y a du commun. Voilà. Donc, on essaie de trouver cette voie-là, et c'est ça qui n'est pas très facile.
Pour le coup, il y a un endroit où une extrême majorité de Français était d'accord, et d'ailleurs, ça se retranscrit même dans l'Assemblée nationale qui vous a été envoyée, comme vous le dites si bien, c'est le sujet de la retraite. C'est le sujet du départ à 64 ans.
Oui, mais sujet de la retraite, vous savez...
En fait, c'est vraiment les Français, on a compris, mais on va faire quand même.
Non, c'est pas ça. Parce que les Français, qu'est-ce qu'ils nous disent aussi ? Qu'ils veulent des comptes équilibrés. Parce qu'aujourd'hui, en l'état des retraites et en l'état de la façon dont fonctionnent aujourd'hui les retraites, et c'est pour ça qu'on a mis les partenaires sociaux tous ensemble. Moi, je sais qu'ici, il y a des gens qui sont adeptes, et je partage, des citoyens qui font de la politique, qui s'impliquent dans la politique. Et je trouve ça génial. C'est l'objet de votre émission. Et en cela, c'est parfait. Et donc, quand on donne la responsabilité de réfléchir sur les réformes des retraites aux partenaires sociaux, on se fait critiquer. C'est pas bien, c'est contradictoire en tout cas. Et moi, je trouve que cette idée de donner la main aux partenaires sociaux en leur disant il y a un seul truc qu'on vous demande, c'est plus de déficit. C'est plus de déficit. Et ça, c'est notre responsabilité parce que moi, j'ai payé la retraite de mes parents, d'accord ? Mes enfants sont en train de payer la mienne, sauf que mes petits-enfants sont en train de la payer parce qu'on fait du déficit et que c'est eux qui vont le payer. Et donc ça, cette responsabilité, elle n'est pas de gauche, elle n'est pas de droite, elle n'est pas parmi les jeunes, elle n'est pas parmi les vieux, elle est collective. C'est la responsabilité de la nation. Et filer cette responsabilité en disant on arrête de faire la retraite à 60 ans, on rase gratis, etc. et de se mettre devant les chiffres, de réfléchir ensemble comment on pérennise notre système de retraite pour que vous en ayez une retraite, je trouve que c'est plutôt, pour le coup, une bonne méthode.
Mais quand vous réunissez les partenaires sociaux et qu'en pleine négociation, les négociateurs des organisations se rendent compte qu'ils perdent un petit peu leur temps parce qu'en réalité, tout est déjà pipé avec le gouvernement.
Tu fais référence à la CGT qui a quitté les négociations.
La CGT, la CFDT.
Je redis, qu'est-ce qui est pipé aujourd'hui ? C'est eux qui ont la main. Ok, François Bayrou s'est exprimé dimanche dernier en disant je trouve ça difficile de ramener la retraite à 62 ans, mais il les laisse travailler et il leur dit il y va même pas d'ailleurs. Et vous voyez, il y va même pas dans ce conclave, pour pas reprendre votre mot. Et il les laisse travailler. Et donc s'ils ont trouvé le Graal pour à la fois financer les retraites et revenir à 62 ans, mais mazel tov.
Y a un autre sujet qui a fait l'objet d'une cacophonie au sein du gouvernement ces derniers temps, c'est la question du voile dans le sport, la question de l'interdiction du port du voile aux jeunes femmes qui participent à des compétitions sportives est sur la table, soutenue par Bruno Retailleau et Gérald Darmanin. Et en face, on retrouve Elisabeth Borne, la ministre de l'Éducation nationale, qui, elle, s'oppose à cette mesure. Là aussi, il y a deux lignes qui s'expriment publiquement au sein du gouvernement sur ce dossier.
Quelle est la ligne du gouvernement ? Il y a deux lignes, en fait, deux expressions qui se sont exprimées, si je peux faire cette redondance. La position du gouvernement, elle a été clairement exprimée à la fin de l'examen du texte proposé par Michel Savin au Sénat, par Marie Barsac, la ministre des Sports, qui a donné un avis favorable au texte tel qu'il avait été amendé au Sénat. Et donc, c'est effectivement l'interdiction du port du voile pour les jeunes filles pendant les compétitions, dans les fédérations qui ont une délégation de services publics.
Je précise que Gérald Darmanin, ministre de la Justice, avait menacé de démissionner si jamais.
Oui, mais ça.
Ouais, bah... Ah, mais non, mais c'est important quand même, madame.
Ça joue.
C'est quand même important.
Oui, mais c'est pas ça qui fait la ligne du gouvernement.
On entend que c'est même Gérald Darmanin qui contacte le Parisien en disant qu'il menace de démissionner juste avant d'aller à midi voir le Premier ministre.
Oui, mais c'est pas ça qui fait la ligne du gouvernement.
On a ensuite la petite phrase qui fuite dans la presse où on apprend que François Bayrou aurait dit à Bruno Retailleau « Tais-toi !» Bruno Retailleau qui quitte la pièce, François Bayrou qui le rattrape, c'est un théâtre. Hein,
Moi, j'y étais pas, donc je sais
oui,
pas.
Oui, non, mais j'entends. Tout ça est motivé par l'argument qui est notamment donné par Bruno Retailleau, celui de la laïcité. Ça tombe bien, c'est la loi de 1905, que je dis à chaque fois, c'est une loi de liberté que je chéris. Et je voudrais qu'on en parle de cette loi de 1905. Loi de 1905, laïcité, on parle de liberté de conscience. On a le droit de croire ou de ne pas croire. Jusqu'ici, on est d'accord. Liberté de culte, libre exercice des cultes, là aussi, je pense que l'on est d'accord. Séparation de l'Église et de l'État, tout représentant de l'autorité publique, fonctionnaire, ne doit pas interférer dans le religieux et je ne dois pas savoir de quelle confession est la personne en face. J'aimerais vraiment savoir, puisqu'on vient de décrire donc la laïcité, quand est-ce que la laïcité rentre en compte quand on parle de maman voilée qui accompagne les sorties scolaires, quand on souhaite ostraciser des jeunes filles et les mettre de côté parce qu'elles souhaitent, comme plein de jeunes, s'émanciper par le sport, quand Bruno Retailleau dit qu'il veut boycotter le fameux repas rupture de jeûne à la Grande Mosquée de Paris, alors que tous ses prédécesseurs, tous les ministres de l'Intérieur, également ministres des cultes, l'ont fait. En disant que d'ailleurs, il ne se présente pas dans des cérémonies religieuses officielles, alors qu'on l'a vu notamment dans une messe, lors de la venue du pape en Corse en décembre dernier. Comment voulez-vous que je ne vois pas en réalité une volonté de ce gouvernement d'aller singer un petit peu le Rassemblement national et d'aller un petit peu sur ses plates-bandes avec un relan, je vais vous le dire, islamophobe en réalité, tout ça couvert d'une laïcité dévoyée.
Sophie Prima.
Oui, alors deux éléments. Le premier, c'est que je voudrais reparler de cette proposition de loi sur le voile qui ne comporte pas, qui comporte cet article-là, mais qui ne comporte pas que cet article-là. Il comporte aussi deux articles, notamment un sur l'utilisation des locaux sportifs à d'autres fins que du sport.
Sur ça, on peut être d'accord.
Sur ça, vous pouvez être d'accord. Je veux quand même faire le point également. Ce n'est pas vous faire offense aujourd'hui de dire qu'on a un problème d'entrisme des frères musulmans dans le sport. On voit beaucoup de jeunes aujourd'hui qui dérivent sur des pratiques de la religion qui sont des pratiques de la religion libres, bien sûr, aujourd'hui, parce que, comme vous le dites, on est sous loi 1905 et qu'on est en laïcité, mais qui vont très au-delà et qui, parfois, font dériver des jeunes sur des endroits qui sont borderline. Voilà. Donc, on a aujourd'hui cette difficulté qu'on partage tous, qu'on soit chrétien, musulman, juif, on partage tous cette difficulté qu'on voit en fait une poussée de l'entrisme islamique. Et je fais bien la différence parce que, comme je vous l'ai dit, moi je suis du nord des Yvelines. Donc les nord des Yvelines, c'est les Yvelines ouvrières, je le redis, de l'industrie et de la désindustrialisation. Donc moi, des personnes musulmanes, j'en ai avec moi depuis l'école maternelle. Donc autant vous dire que c'est assez éloigné.
Soit.
Voilà.
Bon. J'essaye toujours de trouver
le temps. Voilà. Et donc, il faut trouver, en fait, le signal pour dire. Il y a des principes de la République qui sont les principes de la loi 1905, qui sont des principes aussi d'égalité entre les femmes et les hommes. Ces principes-là, ils doivent être respectés dans toutes les moments officiels, voilà, où vous représentez en fait un club, où vous représentez la France, où vous représentez un moment officiel. Mmh. Et puis après, ben vous avez la liberté. Vous voyez, ça s'est bien passé à l'école, par exemple, quand le voile par François Bayrou d'ailleurs
a été. Chose complètement différente, madame, vous en conviendrez. Parce que là, je n'arrive toujours pas en réalité à voir pourquoi. Telle ou telle jeune fille qui va aller jouer, par exemple, pour le club de Jean-Toul Lévin, pour parler de Belleville, des
oui,
Yvelines,
oui.
Je ne vois pas en quoi, en réalité, la laïcité rentre en compte. Je ne vois pas à quel
parce
moment...
Parce que quand
vous parlez d'égalité entre les femmes et les hommes, vous ne pensez pas justement que c'est, en réalité, justement faire une distinction entre les femmes et les hommes que de dire à une jeune fille, parce que tu es voilée, en réalité, tu ne vas pas pouvoir faire de sport.
Mais ce n'est pas ça qu'on lui dit.
Enfin, vous lui dites quoi,
on lui dit à cette
parce
jeune fille...
Parce que la loi du voile à l'école est complètement différente. Hein.
Oui, oui, très bien. Mais ce qu'on lui dit à cette jeune fille qui va représenter... Elle va représenter quoi? Elle va représenter son club, mm-hmm, quand elle va faire une compétition. Et donc, les gens qui sont en face d'elle n'ont pas besoin de savoir qui se battent contre... Enfin, qui se battent au sens du sport, hein, bien sûr, mm-hmm, contre une chrétienne, une musulmane, etc.
Et
elle représente son sport.
Et pourquoi pas? Parce qu'en réalité, ça ne rentre pas là en compte avec la laïcité que l'on vient de décrire. Et il n'y a aucune loi dans le sport, en réalité, dans un règle d'un sport quelconque, qui dit qu'en réalité, on ne doit pas connaître la confession de l'autre. Je rappelle que sur les Jeux Olympiques, la France était le seul pays où, en réalité, nos athlètes ne pouvaient pas être voilés.
C'est un principe de la République et on l'affirme.
C'est un principe
comme tel.
De votre gouvernement.
C'est un principe de la République.
C'était ma question, c'était votre réponse.
Voilà.
Lorraine.
Bah, vous savez, je voudrais juste dire des choses. Allez. Moi, je me suis retrouvée au Sénat à devoir me déterminer sur le vote du voile pendant les sorties scolaires. Ça a, été un, ça a été un sujet aussi.
Vous avez voté quoi ?
Ben, je vais vous le dire. Je vais vous le dire, mais je vais vous dire quelle a été ma réflexion. Mais c'est difficile, ces sujets-là, vous voyez. C'est très, très difficile. Encore une fois, moi, j'étais maire d'Aubergenville, dans les Yvelines, 12 000 habitants, que vous connaissez. Donc, vous savez que la population maghrébine est très importante et la population musulmane est très importante. Et comme maire, je connais... Enfin, voilà, j'étais très intégrée dans toutes les communautés, y compris les communautés... ces mamans qui viennent voiler à l'école ou sorties scolaires, elles me dérangent pas. Au contraire, elles font partie de la vie sociale, etc. Dans ma réflexion, je me suis dit, en fait, toutes ces femmes sont des républicaines. Et en fait, qu'est-ce qui les dérange tellement, au-dessus de la République, d'enlever leur voile pendant 2 heures ? Oui, je me suis posé cette question-là.
Elles ne sont pas fonctionnaires, madame.
Mais je me suis posé cette question-là, en fait. Donc j'ai voté ce texte de loi pour l'interdiction, mais en n'étant pas très à l'aise, vous voyez, dans mon raisonnement.
Oui, je comprends bien, parce que vous avez voté pour l'interdiction d'un truc qui vous dérange absolument pas, et dans lequel vous constatez vous-même sur le terrain que tout va bien.
Bon, donc,
non mais ok, d'accord, d'accord.
C'est
okay,
pour ça que c'est le
moi qui m'a eu. Hein.
C'est pour ça que je.
Non mais parce que vous voyez.
Je demande de croire au fait, de voir, d'essayer de comprendre le lien.
Oui, mais bien sûr. Mais il y a aujourd'hui tellement de pression sur l'entrisme. Voilà, tellement de pression qu'il faut aussi qu'on marque des éléments symboliques. Et ça, c'est un élément.
Il y a aussi
symbolique.
Une pression sur tous les Français de confession musulmane. Et désolé de dire qu'en réalité, ces discussions. Ces mesures en réalité ne font qu'accentuer justement cette pression sur les Français de confession musulmane. Et je vous assure que, à force de vouloir jouer à la pâle photocopie avec l'extrême droite et avec le Rassemblement National, vous finirez par perdre le jeu, malheureusement.
Oui, alors,
parce que vous servez, Malek, et je vous dis, vous parlez des frères musulmans, vous parlez de l'entrisme,
Malek,
vous jouez le jeu des radicaux, madame la ministre,
et
vous avez une
national.
Responsabilité.
C'est pas à moi qu'il faut parler du Rassemblement.
On va y venir justement sur
d'accord.
Le fait
bah, moi non
vous
plus,
avez
madame.
Quitté les Républicains au moment d'Éric Ciotti. On a d'autres sujets à aborder dans cette émission. Lorraine, tu voulais poser une question.
Oui, en fait, moi je constate que vous reprenez quand même l'argument d'entrisme, etc. Moi je me demande au final, vu qu'il y a plusieurs lignes dans ce gouvernement, qui décide au final ? Parce que...
Le Premier ministre.
C'est pas l'impression que j'ai, parce que, par exemple, sur le fait de recadrer...
En tout cas, moi, mes arbitrages, je vais les chercher chez le Premier ministre. C'est-à-dire que quand je prépare le compte-rendu du Conseil des ministres, je vais chercher mes arbitrages chez le Premier ministre.
Oui, mais est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a quand même une ligne qui a plus d'impact au sein du gouvernement, qui est la ligne défendue par Bruno Retailleau et Gérald Darmanin, en l'occurrence ? Vous n'avez pas cette impression-là ?
Pour l'instant, probablement que oui, mais sur d'autres, vous ne parlez que de ça, parce que c'est vrai que ça prend beaucoup dans l'actualité, mais il y a beaucoup d'autres textes, beaucoup d'autres... travaux qui sont menés par les autres ministres et qui passent un peu sous les radars en ce moment.
Émilien ?
Oui, je vais revenir sur cette question-là de la pluralité des voix, pour le dire poliment.
Polyphonie.
Si vous voulez, c'est très joli la Corse. Finalement, comme on l'a rappelé dans l'émission, le fait est que le gouvernement n'a pas été composé suite à un accord formel, comme ça peut se faire en Allemagne, comme c'est en train de se faire d'ailleurs au jeu en Allemagne. Et donc, c'est un petit peu une adaptation au jour le jour. Mais du coup, la question qu'on se pose, c'est finalement, est-ce que le risque aussi, c'est pas que la mécanique du chantage et de dire « Ah, si c'est ça, je claque la porte et le gouvernement tombe » devienne un genre de rapport de force et que les gens ne fassent pas de compromis en interne. J'ai l'impression, par exemple, que, mine de rien, les Républicains imposent vraiment leur ligne. C'est aussi peut-être la faute des autres qui n'y vont pas assez fort, et que parfois, il est question de « non, sur ce point-là, on ne dérogera pas ». Et vous-même, vous avez dit « je reste là parce que j'ai pas de point qui me choque ». Mais du coup, comment est-ce qu'on détermine ça ? Est-ce qu'il y a des discussions plus institutionnalisées entre membres de la majorité ?
Non, il n'y a pas ces discussions entre membres de la majorité, si ce n'est au Conseil des ministres, puis dans les discussions interministérielles, quand il y a des réunions interministérielles sur des points bien précis. On est tous rentrés à ce gouvernement en disant c'est un gouvernement qui fait face à la nouvelle situation politique. Vous le dites, il n'y a pas de coalition de base au départ. Et donc, aucun de nous ne veut renoncer à ce qu'il est. Donc, je ne sais pas si on peut parler de chantage au départ, mais comme on ne veut pas renoncer à qui on est, il y a un moment où si la décision est orthogonale à ce qu'on pense, eh bien, on ne dénaturera pas non plus nos convictions politiques. Et à ce moment-là, on quittera le gouvernement, on pensera à quitter le gouvernement. Mais pour l'instant, ça n'est pas arrivé.
Est-ce que ce n'est pas aussi un petit problème de culture politique en France ? C'est-à-dire que finalement, dans beaucoup de pays, il y en a qui sont obligés de renoncer. Les socialistes, le SPD qui va rentrer au gouvernement en Allemagne, a déjà accepté de faire des grosses compromissions parce qu'il faut bien former un gouvernement.
Oui, mais ce n'est pas le titre de départ. Voilà.
Oui, là. Mais est-ce que la France aussi n'aura pas un besoin de commencer à réfléchir ? Parce que cette situation-là va sans doute se reproduire de nombreuses fois, malheureusement.
Ben écoutez, pour l'instant, c'est pas le cas. Voilà, c'est pas le cas.
Je voudrais revenir un petit peu sur votre parcours à droite, parce que je le trouve intéressant. On l'a dit, vous avez été sénatrice Les Républicains, vice-présidente du Sénat, présidente de la Commission des affaires économiques. Et l'année dernière, en 2024, le président du parti Les Républicains, Éric Ciotti à l'époque, a annoncé, un peu la surprise générale, sa volonté de proposer une alliance à Marine Le Pen, rompant donc le cordon sanitaire historique. Vous avez claqué la porte du parti à ce moment-là. Pourquoi ?
Parce que moi, je suis d'une branche de la droite qui vient du chiracisme. On a toujours, dans nos gènes, combattu le Rassemblement national. Et donc, il est hors de question pour moi de changer, de renoncer à qui je suis aussi. Et parce que le Rassemblement national ne correspond pas à mes idées. Et donc, par conséquent, à partir du moment où Éric Ciotti seul avait décidé que les Républicains s'alliaient au Rassemblement national, je n'avais plus ma place.
Est-ce que vous pouvez comprendre la surprise qui a été la mienne quand j'ai appris que vous ralliez à Bruno Retailleau pour la présidence des Républicains ?
Vous avez été vraiment surpris.
Ouais. Bah que quelqu'un qui claque la porte du parti parce qu'il se rapproche du RN soutienne Bruno Retailleau 6 mois plus tard, je vous avoue que c'est surprenant.
Bruno Retailleau n'est pas RN, je suis désolée de vous le
Alors,
dire.
Expliquez-moi en quoi Bruno Retailleau s'éloigne de la ligne du RN.
Je connais Bruno Retailleau, alors économiquement ça n'a rien à voir, clairement.
D'accord.
Moi je connais Bruno, je ne comprends pas pourquoi vous êtes étonnée, parce que moi je connais Bruno Retailleau depuis 10 ans, je suis sénatrice depuis 2011.
Il était président du groupe.
Il était président du groupe LR. Et je reconnais en Bruno Retailleau, d'abord on a quelques divergences de vues sur certains points et qui sont pas récentes, mais Bruno Retailleau, notamment sociétal par exemple.
Okay.
Bruno Retailleau a toujours vécu dans son groupe des Républicains qui est assez important au Sénat avec des différences qu'il a acceptées. Il a ses convictions, elles sont solidement ancrées, elles sont solidement argumentées d'ailleurs, mais il comprend et il accepte que d'autres, à l'intérieur de la famille politique, aient d'autres avis. Ce que je reconnais à Bruno Retailleau, c'est sa capacité à faire vivre un parti qui soit un parti large. Et donc, quand on a créé l'UMP il y a des années maintenant, on allait du centre-droit voilà, à une droite un peu plus dure. Et on arrivait à cohabiter tous ensemble dans une famille politique qui gagnait des élections et qui correspondait aux besoins des Français et aux préoccupations des Français. C'est ça que je lui reconnais, c'est D'accord. sa capacité à faire des alliances.
Comme il a été président d'un groupe pluriel, il pourrait être président d'un parti. Ça, j'ai bien l'idée. Mais je trouve ça intéressant et j'aimerais bien vous entendre sur la doctrine de la droite contemporaine d'aujourd'hui. Ça veut dire quoi être de droite ? Ça veut dire quoi ? C'est quoi l'identité politique des Républicains aujourd'hui ? Parce que on a d'un côté une Marine Le Pen qui se dédiabolise de plus en plus, qui drague les milieux économiques maintenant de plus en plus et qui essaye un petit peu de siphonner les Républicains sur son électorat. De l'autre côté, on a un Emmanuel Macron qui a fait un travail depuis plusieurs années maintenant assez impressionnant sur l'autre partie du parti des Républicains. Là, vous avez un congrès. Du coup, j'aimerais bien que vous me disiez, c'est quoi pour vous l'avenir de ce parti, de cette position politique ?
Moi, je pense que le « en même temps » a vécu. Okay. Je pense que le « en même temps » a vécu, je l'ai beaucoup combattu, et c'est pour ça longtemps que je suis restée aux Républicains, parce que je trouvais qu'avec un parti socialiste qui s'effondrait et un parti Les Républicains qui s'effondrait, en fait, on laissait de la place qu'aux extrêmes, à gauche et à droite.
Okay.
Pour moi, je ne pouvais pas laisser la politique dans cet état-là. Donc je n'ai pas... on n'a pas réussi, hein. On n'a pas été bon. Enfin, voilà, on n'a pas réussi à garder cette droite républicaine, pas plus d'ailleurs que le Parti socialiste n'a réussi pendant longtemps à faire sans LFI. Et donc, on a eu ce en même temps, et ce en même temps qui est caractérisé par Emmanuel Macron aux yeux des Français. Je pense qu'on est à la fin de ce en même temps et que, comme je dis souvent, la rivière va retourner dans son lit. C'est-à-dire que je pense qu'il va y avoir une gauche et je pense qu'il va y avoir une droite et je le souhaite. Et je vous entendais tout à l'heure parler du Parti socialiste, de son avenir, de ses difficultés aussi, qu'on connaît bien, la guerre des chefs, la guerre du positionnement, la guerre par rapport aux extrêmes. Enfin bon, on a des problématiques qui sont des problématiques diverses. Enfin, vous considérez qualifié et pas des extrêmes, moi je les considère.
Parce c'est pour ça, Malek. L'extrême gauche, c'est une culture politique.
Voilà.
Et la France insoumise n'est pas d'extrême gauche.
Elle est magnifique et son expression à l'Assemblée nationale aussi. Donc je pense qu'aujourd'hui on va avoir une gauche et une droite et que la droite elle doit se reconstruire autour des valeurs qui sont les valeurs de la droite, c'est-à-dire des valeurs sur la réforme de l'éducation et le retour à une éducation plus forte, plus institutionnelle et plus efficace aussi pour l'ensemble de nos jeunes. Il faut qu'on réinvestisse dans la jeunesse. Aujourd'hui notre pays est en train d'investir, pardon, mais pour les personnes les plus âgées. Je suis désolée, il faut qu'on réinvestisse dans la jeunesse. C'est très important de réinvestir dans la jeunesse, de permettre à toute cette jeunesse d'avoir un emploi, de permettre à cette jeunesse d'avoir un cadre familial dans lequel elle puisse faire garder ses enfants. C'est important d'investir là-dedans. Il faut qu'on soit fort sur le régalien. Ça, c'est l'habitude, j'allais dire, et le positionnement. Et puis, une économie qui soit libérée et qu'on libère cette économie qui, aujourd'hui, est étouffée par une démocratie qui a créé au fil des années, au fil des majorités, tellement de règles, tellement de carcans qu'aujourd'hui on est étouffé. Vous savez, moi je fais un tour de France des préoccupations comme porte-parole parce que j'essaye d'être porte-parole aussi dans l'autre sens, d'aller écouter les territoires et de remonter ça. Et je trouve sur les territoires, y compris des territoires ruraux où les gens n'ont pas beaucoup de moyens d'État présents, y compris dans des entreprises. En fait, les gens nous disent mais arrêtez, on veut même pas d'argent. Ce qu'on veut, c'est de la liberté. Fichez-nous la paix, on trouvera les solutions. Ben ça, c'est hyper positif, d'abord. Et puis, je pense que ça fait partie de l'ADN de libérer en fait, les énergies, qu'elles soient associatives, sportives, économiques. Il faut donner de l'air à notre pays.
Émilien, ce discours que vous donnez, il n'est pas nouveau. Bon, faut dire que la droite n'a pas pour habitude de changer ses fondamentaux tous les 36 du mois. Bon, on se dit comme beaucoup de partis. C'est des choses que j'entends depuis de nombreuses années. Tout comme le besoin de rénovation et de refondation idéologique du parti. Depuis 2012 et la défaite de Nicolas Sarkozy, c'est quand même été le cas presque une demi-douzaine de fois. Ça n'a pas vraiment abouti.
Non, c'est planté, ouais.
La question, c'est... C'est pas. On peut croire à la volonté des uns et des autres de refaire quelque chose. Les intérêts divergent selon les positions. Mais comment est-ce que les Républicains peuvent faire en tant que parti pour, j'ai envie de dire, structurellement, vraiment travailler les idées, puisqu'a priori, Bruno Retailleau n'est pas contre cette position-là, et avoir un parti qui, à la fois, soit clair doctrinalement et en même temps, arrive à parler à tous les spectres de la droite, y compris la droite la plus libérale, sachant que c'est pas un discours qu'on entend beaucoup quand même à droite. On sent que la droite de gouvernement, qui existait justement du temps de Jacques Chirac, est devenue quasiment aphone.
Je suis pas sûre de comprendre bien votre question, mais je pense qu'il faut qu'on retrouve la capacité. Alors, je sais pas d'ailleurs si ça passe exactement que par un parti. Ça passe par un parti qui crée des idées, qui met des idées sur le tapis. C'est pareil pour la gauche. Et puis, qui essaye de partager ces idées et d'aller les puiser aussi sur le territoire. Ça, on a quand même... Enfin, si on s'est pris des déculottés politiques comme ça, c'est parce qu'aussi, on s'est ankylosé, on n'a pas su renouveler, on n'a pas su mettre des jeunes, on n'a pas su écouter le terrain. Enfin, c'est aussi pour ça. Hein. Donc, je pense qu'il faut qu'on sache faire ça et qu'on s'ouvre aussi aux autres idées. Après, moi, je pense qu'il faut arriver dans les 6 mois qui viennent à avoir un discours qui soit à la fois très compréhensible, très clair sur les grandes idées, et puis après qu'on le partage avec les autres. Je pense que c'est vraiment, il faut qu'on aille glaner.
Vous croyez vraiment à la possibilité que le en même temps a fait son temps, que le macronisme, sans que ce soit un accident de l'histoire, qu'à un moment ça va s'essouffler et que vont réémerger les deux grands partis structurants, la droite et de la gauche, qui étaient les Républicains et le PS?
Je ne sais pas si c'est le même format et exactement la même chose que ce qu'on connaissait avant, mais je pense que le grand centre, tel qu'il a été incarné par Macron, avec le « en même temps », Et des structures comme les nôtres, vous voyez, en ce moment, d'un gouvernement qui est à la fois centre-gauche et à la fois à droite, c'est compliqué, vous voyez. Encore une fois, vous avez des réserves sur le fonctionnement. C'est compliqué. Donc, je ne sais pas si c'est exactement dans la même configuration que ça existait dans le temps, mais en tout cas, je pense qu'on a besoin d'une gauche et d'une droite républicaine et qu'on a besoin d'une confrontation de conviction, qu'on a besoin d'une confrontation de proposition et que ça me paraît beaucoup plus sain pour la démocratie.
Lorraine ?
Mais justement, en fait, on voit que la Ve République, de base, en tout cas réformée par le général de Gaulle avec le suffrage universel du président, a été surtout construite pour avoir des majorités fortes, des majorités larges. Et là, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de mise en danger de l'équilibre institutionnel, dans le sens où, déjà, il faut quand même rappeler que en juin dernier, il y a le refus de Emmanuel Macron de donner l'occasion au NFE de composer un gouvernement. Il y a le ministre de l'Intérieur qui rompt avec la tradition de rompre le jeûne, etc., alors qu'il est aussi le ministre des Cultes. Il envoie le ministre des Affaires étrangères à sa place, etc. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que notre régime, donc c'est-à-dire la Ve République, aujourd'hui, elle est affaiblie? Ou alors, peut-être, et peut-être c'est le pari du gouvernement, en tout cas, est-ce que le gouvernement mise peut-être sur un contexte international qui nous rassemblerait derrière une personne, et en l'occurrence Emmanuel Macron ? Je ne sais pas si c'est clair.
Oui, c'est clair. Je réfléchissais à ce que j'allais vous répondre, et parce que c'est une question évidemment éminemment intéressante. En réalité, je pense qu'heureusement qu'on a la Ve République. Et je pense que, aussi peut-être imparfaite qu'elle puisse paraître, elle nous permet pour l'instant de passer cette crise. Si cette crise continue et perdure dans les prochaines années, je pense qu'effectivement, il faudra regarder comment on traverse ça. Mais pour le moment, elle est solide, cette Ve République. Alors, on lui a fait quelques accros qui, à mon avis, sont dommageables. Dans les accros, je pense qu'il y a le septennat.
Et vous pensez que c'était une erreur?
Oui, moi, j'étais pour le quinquennat hein, quand on l'a proposé. En 2000. Je trouvais ça moderne, je trouvais ça tout ça. En réalité, je pense aujourd'hui à l'usage, si j'ose dire, qu'en réalité, le septennat permettait au président de la République d'être le président de tous les Français. Et que le quinquennat, c'est le président d'un camp. Okay. Et que même, on voit bien qu'Emmanuel Macron essaye d'élargir. Mais en réalité, je pense que ce septennat, il permettait d'avoir des échéances. Dans le septennat, il y avait deux échéances, hein, souvent deux échéances législatives, et ça permettait aussi peut-être de faire cette alliance. Vous voyez, cet équilibre dont vous parlez tout à l'heure, qui se faisait en réalité entre un président de la République et un gouvernement. Et donc, je pense que cette Ve République est pour l'instant encore assez forte et qu'elle nous permet de traverser ces crises. Est-ce qu'il ne faudra pas réfléchir plus en avant comment l'améliorer? Mais chaque fois qu'on l'a améliorée, en réalité, dans le temps, on l'a un petit peu détériorée.
Est-ce que pour vous, l'élection du président de la République au suffrage universel direct, ça ne fait pas partie des faiblesses aussi de cette Ve République ? Où tous les 5 ans, on attend un champion qui, avec sa grande majorité stable...
Surtout avec un quinquennat, en fait. Avec un quinquennat.
Nicolas Sarkozy, ça s'est très bien passé, son quinquennat. Il a eu une majorité pendant 5 ans.
Parce qu'il avait sa majorité pendant 5 ans. Mais dès Nicolas Sarkozy, le président est devenu plutôt un chef de camp. Vous voyez, moi, à l'époque, j'ai commencé sous Nicolas Sarkozy. Enfin, ça n'a pas duré longtemps parce que je suis arrivée à l'Assemblée en 2010 et j'en suis partie pour le Sénat en 2011. Par exemple, cette habitude qui était de recevoir les députés du groupe Les Républicains, enfin UMP à l'époque, à l'Élysée et juste les députés de ce groupe-là... c'est pas normal en réalité. Si on est président de toute la France, on doit. Et si on invite les députés.
D'ailleurs, Hollande avait promis qu'il ne le ferait pas, puis il l'a fait quand même.
Et puis il l'a fait, et puis Emmanuel Macron aussi, etc. Et du coup, on devient le président d'un camp, alors qu'on devrait être le président des Français, et on devrait faire des arbitrages, on devrait peser dans les arbitrages politiques pour amener un peu plus de stabilité.
Malek ?
Désolé, j'étais en train de boire de l'eau.
Tant que c'est que de l'eau, ça va.
Oui, ça va. Il n'y a que ça ce soir. Je vous rejoins pleinement, mais si je vous écoute, je dois aussi donc suivre la logique de l'élection législative de l'année dernière, Madame la Ministre. Et comment vous dire, votre camp est arrivé quoi, 5e, il me semble, et pourtant vous gouvernez. Donc en fait, votre discours, confronté à la réalité, il est un petit peu difficile à entendre. Vous vous rendez compte aussi que, avec ce qui s'est passé, des centaines de milliers de personnes se sont rendues aux urnes alors qu'ils d'habitude ils ne votent pas. C'est pas cette petite impression un petit peu de faire mal à la démocratie et du coup in fine aussi à la cinquième.
Mais ceci dit, je suis désolée, il n'y a pas de majorité. Je sais bien que la gauche a l'habitude de dire qu'elle a la majorité à l'Assemblée nationale, mais alors, vous ne l'avez pas. Je suis désolée.
Une majorité relative.
Ce n'est pas voilà.
Et une majorité qui est très fragile, disons-le. Entre avoir une majorité très fragile et mettre au pouvoir, parce qu'en réalité, on a François Bayrou comme Premier ministre, mais aujourd'hui, il est tenu par sa droite, par Bruno Retailleau, et tenu par sa gauche, par Gérald Darmanin. En réalité, c'est donc les LR aujourd'hui qui gouvernent depuis septembre. Et comment vous dire ?
J'avais pas remarqué que Gérald Darmanin était resté au LR, mais bon, il m'a encore dit qu'il était exclu il y a quelques temps.
Il est bel et bien parti des LR, mais en réalité, si c'est pour vendre dans la même veine que Bruno Retailleau une ligne pour singer le Rassemblement national.
Tu veux dire que Rebsamen, il est au PS ?
Oh, voilà, bah lui aussi.
Je veux bien, mais c'est quoi ton point ?
Mon point.
L'idée, il est resté constant.
Mon point, c'est que. Vous ne pouvez pas aujourd'hui dire qu'en réalité, le problème, c'est qu'aujourd'hui, un président préside pour un camp et que c'est un camp qui gouverne. Quand en réalité, la seule et unique raison de ce gouvernement, en réalité, c'est d'avoir fait tenir et exister un camp et pas en réalité une véritable politique pour les Français, puisque au sein de ce gouvernement, en polyphonie, cacophonie, ce que vous voulez, simulacre, personne n'est d'accord. C'est vous qui cultivez en réalité ce truc de camp.
Moi, je suis pas d'accord avec ça.
Vous êtes pas d'accord ?
Je suis pas d'accord sur le fait qu'on soit pas d'accord. Il y a plein de choses sur lesquelles on est d'accord et sur lesquelles on avance. Vous voyez, par exemple, le travail souterrain. Alors, je sais bien, ça se voit pas. Le travail souterrain qu'on est en train de faire sur la réforme de l'État. Le travail qu'on est en train de faire sur la simplification. C'est un travail souterrain, mais qui est colossal et qui va nous permettre d'aborder le budget 2026, qui est juste un cauchemar apocalyptique. Bon, mais ça, on est tous d'accord et on est tous au travail. Donc, ne dites pas qu'on n'est pas d'accord sur pas mal de choses. En réalité, il y a des points qui sont un peu des points névralgiques qu'on a évidemment.
Qui sont tout de même importants.
Qu'on a évidemment. Mais quand on parle de sécurité, par exemple, regardez le projet de loi, la proposition de loi, émise par le Sénat sur le narcotrafic. Elle sort du Sénat. D'abord, elle est créée de façon transpartisane. La commission d'enquête, elle est avec un PS et avec un LR. Ils se mettent d'accord, ils font une proposition de loi, elle est votée à l'unanimité. Ça, c'est un bon travail. Bon, donc on est d'accord sur un certain nombre de choses.
Sur la tradition française de l'accueil et sur le traitement des jeunes de la Guétadine.
Oui, mais
est-ce que là vous êtes d'accord ou pas d'accord?
Vous prenez un point qui sont des points névralgiques, alors qui sont des points importants, mais qui sont des points névralgiques.
De savoir que des gamins vont se retrouver in fine à la rue, parce que là c'est des solutions de très temporaires, je vous avoue que oui, pour moi ça compte.
Ben, bien sûr, mais pour moi aussi ça compte. Quelqu'un aurait dit, vous n'avez pas le monopole du cœur. Vous n'étiez pas né, mais moi j'étais née et je faisais de la politique. Vous n'avez pas le monopole du cœur. Mais en réalité, bien sûr que c'est important, bien sûr que c'est des sujets. Il faut les traiter à la base. Il faut les traiter en se disant pourquoi aujourd'hui on a des gamins qui peuvent être à la rue. Vous parlez de la gaieté, c'est ça ?
Oui, totalement.
L'évaluation. Je vous signale qu'il n'y avait pas de mineurs dedans. Enfin bon, c'est un détail.
Ça fait partie des points un peu, justement.
Détection minorité. Vous engagez votre responsabilité en le disant sur notre plateau, et c'est important. Mais l'histoire le dira.
La question d'actualité, François-Noël Buffet a répondu hier. Il a dit la même chose que moi. Ouais. Il a dit qu'il y avait 4-5 cas qui étaient avec des recours, sur lesquels on verra. Et naturellement, si ces personnes sont mineures, elles seront accueillies comme il se doit.
On se souviendra de cette réponse. Monsieur Buffet, le ministre, c'est le ministre qui est donc qui doit assister, qui est le bras droit de Bruno Retailleau. Le liftar qui a eu lieu à la Grande Mosquée de Paris, c'est pas Monsieur Barrot qui a été envoyé, puisque si un ministre avait dû être envoyé, ça aurait été Monsieur Buffet. Non, Beauvau a décidé de ne pas envoyer de ministre et un repas avec des ambassadeurs de pays étrangers a été organisé. Preuve aussi que le ministre des Cultes donc n'a pas voulu parler aux musulmans de France, Madame la ministre.
Il était au congrès, alors je ne sais plus comment ça s'appelle, le forum international des musulmans,
oui.
Voilà, où ça s'est très bien passé et il a eu de très bons dialogues avec tout le monde.
Émilien.
Oui, alors vous avez évoqué la question des jeunes, ce qui est un discours qui n'est pas forcément tenu de manière très durable à droite, qui a eu des difficultés à avoir le vote des jeunes.
Oui, bien sûr.
Ça, on
ne
peut pas dire le contraire.
Oui, bien sûr.
Ma question, c'est est-ce que là, actuellement, le gouvernement... Alors, les jeunes ne sont pas quelque chose d'homogène. Mais malgré tout, est-ce que le gouvernement, par la politique sur les retraites, qui est avant tout soutenu par des personnes retraitées, par le discours qu'il a sur le voile, etc., par la politique, je pense, on en a parlé au début, en matière d'enseignement supérieur et de recherche, où les budgets ne suivent pas le nombre d'étudiants, est-ce qu'il arrive vraiment à être suivi par les jeunes? Et quand on regarde le vote à la fois En Marche, enfin Ensemble et LR, il est semblable, c'est-à-dire qu'il augmente avec l'âge. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Je ne ferai rien, ce n'est pas mon rôle, mais pour changer ça.
Je pense en fait qu'il faut aussi avoir un discours de vérité. Vous avez raison sur les budgets de l'université et de la recherche, vous avez raison sur les retraites, vous avez raison là-dessus. Je pense qu'en fait, depuis trop d'années, et je prends les gouvernements différents qui se sont succédés, y compris d'ailleurs à gauche, on s'est enfermé dans une maquette budgétaire qui aujourd'hui nous étouffe et nous empêche en fait de regarder les vrais sujets de société. C'est quoi les vrais sujets de société? C'est qu'aujourd'hui, dans notre pays, à l'heure où on a plus de 60 ans que de moins de 20 ans. Ça, c'est terrible pour une nation, vous voyez, parce qu'elle ne construit pas son avenir avec ça. La réalité, c'est qu'enfermée dans ces maquettes budgétaires, on n'arrive plus à faire face aux besoins de la jeunesse. Et vous le dites, la recherche, l'innovation, le milieu étudiant, l'université... Voilà, qui devraient être des endroits où on met davantage d'argent. Et donc, c'est le moment où, avec la jeunesse, on devrait regarder en fait les arbitrages budgétaires qui doivent être des nôtres. On a plus de quoi faire comme avant. Donc, il va falloir qu'on fasse différemment. Et moi, je pense qu'à l'intérieur de la droite que je vois pour demain, que je vois pour mes enfants, je veux qu'on investisse sur la jeunesse. Et donc, ça veut dire faire des choix ailleurs. Il faut qu'on décide ensemble, là où on fait ses choix ailleurs, pour investir sur la jeunesse, parce que investir sur la jeunesse, c'est investir sur le pays. Voilà. C'est ça que je veux faire.
Il y a actuellement un Conseil européen sur les questions de défense qui se tient à Bruxelles, aujourd'hui et demain. Il y a un plan de réarmement européen qui fait l'objet de discussions. Et dans son allocution, le président de la République a dit qu'il allait falloir financer un effort supplémentaire sur la question de la défense. Et il n'a pas précisé les modalités de ce financement. Il a juste dit qu'il allait falloir faire des choix. Est-ce qu'on en sait plus à l'heure actuelle? Est-ce qu'on sait quels sont les... Est-ce qu'on a des montants? Est-ce qu'on a des décisions?
Alors, on n'a pas de montants pour l'instant. Ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, en fait, il y a eu une réunion à Bercy avec Éric Lombard et Sébastien Lecornu, donc l'économie et puis la défense, et puis tous les industriels en fait de la défense pour estimer les besoins et notamment ce qu'on appelle les besoins en fonds propres, c'est-à-dire les besoins qui vont permettre à ces entreprises d'investir en fait pour produire davantage et d'ailleurs produire aussi peut-être différemment et d'autres choses, parce que on s'est aperçu dans le retour d'expérience de la guerre en Ukraine qu'il y avait des secteurs de l'armement sur lesquels il fallait qu'on investisse plus fortement. Donc aujourd'hui, ce qui est apparu, c'est que de mémoire, il y a 5 milliards de besoins de fonds propres supplémentaires. Et ce n'est pas que pour les grands de l'armement, parce qu'en fait, il y a évidemment les grands noms de l'armement qui ont des fonds propres qui sont assez importants. Mais il y a surtout toute une foultitude de sous-traitants nationaux et européens, de start-up aussi qu'il faut financer en fonds propres.
Ça, c'est sur les besoins de financement.
Ça, c'est sur les besoins de financement. Ils sont très importants.
La question, c'est quel argent, quel sacrifice, quelle réduction sur les services publics, quel choix budgétaire.
Alors ça, c'est évidemment dans le tube du budget 2026. C'est la façon dans laquelle on va appréhender le budget 2026. Et pour le moment, évidemment, les arbitrages sont loin d'être faits. Mais je veux juste dire que redonner aussi des capacités de développement et d'investissement sur ces entreprises de l'armement, c'est aussi créer du travail dans nos territoires, c'est aussi créer de la valeur, c'est aussi créer des recettes fiscales, sociales, et donc il faut bien qu'on mesure aussi l'investissement que doit être le nôtre.
Lorraine ?
Oui, en fait, on peut débattre de quel âge c'est jeune, etc. Moi, en l'occurrence, j'ai 27 ans. Mais on voit que les jeunes sont plutôt anti-guerre, en réalité. Et là, par exemple, il y a eu le SNU, le Service National Universel, qui a été abandonné parce que il y a pas assez d'argent, en réalité. Est-ce que vous comptez aller jusqu'à quand même rétablir le service militaire?
Alors, pas du tout. Parce que d'abord, ça servirait à rien. Et on n'en a pas les moyens, on n'a pas les infrastructures. Donc... Le service militaire, en fait, aujourd'hui, il fait partie d'une forme de nostalgie d'une partie de la population française, soit parce qu'ils l'ont fait et que ça s'est plutôt bien passé, soit parce qu'en fait, ils y reconnaissaient un moyen de socialiser, en fait, l'ensemble de la population française, sans discrimination sociale, sans écart d'origine, etc.
Comme l'école, quoi.
Vous avez raison, des gens y échappaient et certains avaient des services militaires qui étaient plus sympas que d'autres. Moi, mon mari, il a fait son service militaire. C'était plutôt sympa. On est parti à San Francisco pour faire.
Dire aussi, quand même, c'est un peu un mythe.
Le service militaire
qui brasse les générations et les classes sociales, ça n'a jamais été vrai.
C'est pour ça. C'est là où je voulais en arriver. En fait, c'est une espèce de nostalgie nationale sur quelque chose dont on idéalise aujourd'hui les effets. Moi, je me souviens quand ça a été arrêté, les jeunes, ils voulaient arrêter, hein, ils en avaient ras-le-bol. Alors après, juste une question sur le SNU. Il n'a pas été abandonné puisque les budgets ont été continués. Il y a eu au Sénat une petite discussion entre le budget du sport et le budget du SNU. Mais sur le SNU, il y a une chose, en fait, qui est très importante, c'est que quand il a été mis en place, l'objectif, c'était de ramener à la citoyenneté un certain nombre de jeunes qui s'étaient éloignés de la citoyenneté. C'était ça, l'objectif.
Qui
ne connaissaient pas les institutions, qui ne connaissaient pas l'engagement associatif.
Vous ne pensez pas que c'est le rôle de l'école d'apprendre ça ?
Mais c'était aussi le rôle qu'avait
été... l'éducation populaire.
C'était le rôle qu'avait été assigné au SNU. Je vous parle de ce à quoi ça servait. Et aujourd'hui, le SNU, ça fonctionne bien, sauf que la cible des personnes qui vont au SNU n'est pas la cible que l'on souhaitait. Et donc, c'est logique de s'interroger aujourd'hui sur se dire, on a mis en place un truc pour une politique publique avec un objectif, et l'objectif, il passe à côté. Donc, même si les gens qui y sont, ils sont super contents, et je les comprends, parce qu'ils font des choses passionnantes, en réalité, l'objectif qui était poursuivi, parce que moi, j'étais pas au gouvernement, et voilà, à ce moment-là, était un objectif de ramener à la citoyenneté, à la vie associative, à l'engagement, des valeurs qui sont partageables, me semble-t-il. Et on l'a fait, mais pas sur les populations. Donc,
C'est marrant parce que j'ai le même objectif, mais tellement pas le même dispositif. Après, on ne sera jamais d'accord là-dessus. Vraiment, le garde à vous des jeunes, mais au secours. Lorraine.
Mais en gros, vous êtes en train de dire que si le SNU a été abandonné, c'est une question plus d'objectif.
Mais il n'est pas abandonné, je redis qu'il n'est pas abandonné.
En tout cas, qu'il est en discussion, etc. Ou en tout cas, vous réfléchissez à le rediriger ou je ne sais quoi. En tout cas, que vous essayez de le transformer. Ce n'est pas une question d'argent, mais d'objectif.
Alors oui, c'est une question d'objectif. Oui, c'est une question d'objectif, vraiment. Et je vous invite à regarder tous les rapports qui ont été faits sur le SNU pour vous dire qu'on passe à côté de l'objectif de base. Donc, si on passe à côté de l'objectif de base, il faut revoir le système.
D'accord. Moi, j'ai une question sur votre rôle en tant que porte-parole du gouvernement. Je reviens un petit peu sur le fait que vous avez pris fait et cause pour la candidature de Bruno Retailleau à la tête du Parti des Républicains. Vous êtes porte-parole du gouvernement de François. Vous êtes gouvernement de François Bayrou ou de Bruno Retailleau ?
Mais je suis dans le gouvernement de François Bayrou et dans ma vie politique, Les Républicains, à laquelle je ne renonce pas, j'ai choisi de soutenir Bruno Retailleau pour cette présidence.
Pas de favoritisme. En faveur de Bruno Retailleau dans vos prises de position ?
Non. Mais justement, j'essaie de faire attention. J'ai dit que je ne renonçais pas à qui j'étais, mais je suis loyale par rapport à l'objectif qui nous est donné dans ce gouvernement, qui est un gouvernement atypique et qui essaie de faire avancer la France malgré les difficultés. Et elles sont nombreuses, et pas que politiques.
Et il peut rester ministre en étant président de parti. Parce que, par exemple, Jacques Chirac n'est pas voulu au départ que soit Nicolas Sarkozy.
Vous savez pourquoi.
Je sais pourquoi. Voilà, la raison, c'est aussi...
D'ailleurs, tu peux dire pourquoi, Émilien, pour ceux qui ne savent pas, qui ont raté cette histoire, qui était quand même très drôle.
Le fait est que ça faisait un peu beaucoup pour une personne, surtout qui voulait prendre la succession de Jacques Chirac, mais qu'il s'est avéré que Nicolas Sarkozy était bien utile au ministère de l'Intérieur pour ce dernier. Et la question, c'est aussi un président de parti... Pas pour reprendre la rhétorique de Laurent Wauquiez, mais doit avoir ses propres positions pour la discussion. Et si on est en même temps dans le gouvernement, est-ce qu'il y a pas une difficulté pour les Républicains à s'affirmer de manière
Alors, j'ai pas le sentiment que Bruno Retailleau ait la langue dans sa poche, d'ailleurs. Voilà, donc j'ai pas ce sentiment-là. Donc il exprime son avis. Il est suivi et pas suivi. Et puis François Bayrou est patron de parti.
Un point.
Pas faux. Pas, pas
un point, pas tout faux. À fait. Le modem qu'on embrasse. merci beaucoup,
merci
Sophie
beaucoup.
Prima, d'être venue merci. Sur le plateau de Backseat pour répondre à nos questions.